Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 2 février 2026, un lundi pas vraiment black, mais il est quand même vachement foncé ou plutôt rouge quand on regarde les couleurs sur les écrans. Nous sortons d'une semaine spectaculaire, une semaine qui avait commencé par se concentrer sur la Fed, Fed qui n'a rien fait et qui n'est pas prêt de faire quoi que ce soit dans les prochains mois. Et puis nous sommes passés au chapitre des chiffres trimestriels qui nous ont bien montré que les promesses de gagner beaucoup d'argent dans très longtemps grâce à l'IA ne suffisent plus. Puis nous avons eu les tensions avec l'Iran qui n'ont rien donné. Et finalement, la nomination de Kevin Warsh à la Fed qui a laissé pensif les intervenants parce que Warsh serait finalement trop au quiche, ce qui a renforcé le dollar et fait plonger les métaux précieux. Et là, ce matin, c'est tout rouge partout et ça pue quand même un tout petit peu. Je vous avoue, c'est pas simple de mettre le doigt sur la raison de la dépression qui plane sur les marchés en ce lundi matin. On a beaucoup parlé de la nomination de Kevin Warsh ce week-end et il semble important de faire le point. Peut-être que certaines tensions viennent un peu de lui, après tout. Donc après des mois de suspense et de paris sur Poly Market, Trump a fait son choix et son choix, c'est Kevin Warsh. Au moment de l'annonce, il y a eu comme un grand silence. Pas d'applaudissements, mais une réaction très diplomatique qui pourrait un peu se résumer par ces mots. Au moins, c'est pas le pire. Le marché a été soulagé, mais il n'est pas fou amoureux. La première réaction du marché a donc été un soulagement poli, et pas de feu d'artifice, pas de crash, pas de champagne. Et puis le dollar s'est redressé parce que Warsh ne semble pas être un ayatollah de la baisse des taux envers et contre tout. Et comme le dollar s'est redressé, l'or et l'argent se sont plantés. Et comme le monde entier était dans l'or et l'argent parce que c'était un coup sûr, tout le monde a voulu sortir en même temps, au même moment. Physique, ETF, options, produits merdiques à levier. Et comme d'habitude, quand t'as le stade de Maracana qui doit se vider en 3 minutes en passant par une seule porte de 80 cm de large, forcément, ça coince. Mais même l'or, même si l'or et l'argent se faisaient déchirer, et c'est rien de le dire, Wall Street parvenait quand même à poser un jugement sur Kevin Warsh. Ok, c'est quelqu'un de sérieux, on peut respirer. Kevin Warsh, c'est le gars qui rassure les traders obligataires, mais qui ne fait pas rêver les permaboules. Mais c'est moins pire que l'autre Kevin. Warsh, c'est un type orthodoxe, formé à l'ancienne, qui parle inflation sans trembler et qui ne promet pas de baisse de taux massive à la mode de Trump. En résumé, ce n'est pas le messie des marchés, mais c'est pas non plus le fossoyeur. Et vu la liste des concurrents, c'était déjà beaucoup. Du côté des économistes, on le respecte, clairement, mais on se méfie. On se méfie quand même. On respecte le CV, on salue l'expérience, on rappelle qu'il a déjà siégé à la Fed, qu'il connaît la machine de l'intérieur et que du coup, il ne découvrira pas le bouton imprimé du pognon par accident. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la question qui revient partout comme une mauvaise musique d'ascenseur, c'est « est-il vraiment indépendant de Trump ?» Et là, les avis divergent. Certains disent « Warsh n'est pas un yes man et il a déjà résisté par le passé », mais d'autres répondent « oui, mais il sait très bien pour qui il travaille ». Sur le papier et en théorie, Warsh n'est pas le portrait du pantin évident, mais ça n'est pas non plus un moine de l'indépendance monétaire. Soyons très clairs, cette nomination n'est pas économique, elle est hautement politique. Trump veut une Fed qui arrête de lui casser les pieds avec l'inflation quand il parle de croissance. Il veut des taux plus bas, plus vite, plus fort et surtout une Fed qui ne lui résiste pas publiquement comme Powell l'a fait. Sauf que le nouveau patron de la Fed n'a jamais été un grand fan des bilans hypertrophiés et de la politique monétaire open bar. Il a souvent critiqué la Fed pour être allé trop loin, trop longtemps, donc ironie totale. Trump pense avoir choisi son président de la Fed, mais il pourrait bien se retrouver avec un Powell avec un costume différent. Si on résume ce que disent les marchés sans langue de bois, ils ne croient pas à un pivot monétaire violent juste parce que Warsh arrive. Ils pensent que les données macro continueront de commander, pas la politique. Ils anticipent une Fed moins bavarde, plus rigoureuse et potentiellement moins accommodante que ce que Trump espère. Autrement dit, le fait de put n'est pas garanti, le dollar reste roi ou devrait essayer de rester roi, et les marchés devront refaire ce qu'ils détestent le plus, réfléchir. Kevin Warsh n'est donc ni une évolution, ni une révolution, ni un scandale, c'est un choix de stabilité dans un monde instable. Un message envoyé au marché, on ne va pas tout casser, mais on ne va pas vous sauver à chaque éternuement non plus. Et ça, dans un marché drogué à la liquidité depuis 15 ans, c'est presque subversif. La vraie question n'est donc pas, Warsh est-il pro-Trump, mais plutôt, quand Trump va s'impatienter? Est-ce que Warsh tiendra le coup? Par exemple, que va-t-il se passer si l'inflation remonte, si les taux restent là où ils sont, si les marchés baissent? Là, on saura très vite qui commande la Fed et ça risque d'être beaucoup moins calme sur les marchés
Un peu comme ça s'est passé sur l'or et l'argent ces derniers jours. D'ailleurs, à propos de marché qui baisse, ce matin, ça ne sent pas super bon. On a eu 2 jours pour digérer Warsh, 2 jours pour digérer la baisse de l'or et de l'argent, et du coup, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire de sympa pendant le week-end, au vu de l'instabilité et des doutes qui nous assaillent, c'est de vendre le Bitcoin. La crypto-vedette s'est donc pris une nouvelle baffe ce matin, on a tapé les 74 500, et l'or est à 4780, et l'argent est à 77$. Ce sell-off massif, tout azimut, le massacre sur l'or et l'argent a tout de même fait se vaporiser 7000 milliards de dollars de valeur, fait que le monde merveilleux de la finance est en plein doute. Vous rajoutez à cela le pétrole qui se fait exploser ce matin, Trump a déclaré que les USA étaient sérieusement en train de parler avec les psychopathes qui dirigent l'Iran, du coup la prime de risque à la guerre se dégonfle immédiatement, sur le côté qu'il y a bien sûr comme d'habitude une vague de profit-taking. Bref, là tout de suite le WTI est à 61,98 après avoir touché les 66,48 la semaine dernière. Et puis alors, on commence à flipper au sujet de l'IA en Asie. Et en ce premier lundi du mois de février, le Kospi coréen se prend 5% dans les dents parce que, je cite, « des commentaires font état du fait que le marché ait pu éventuellement peut-être avoir mis la charrue avant les bœufs au sujet de l'intelligence artificielle ». Peut-être, c'est même pas sûr. Mais il faut dire qu'au vu de certaines valorisations et d'autres ascensions verticales auxquelles nous avons assisté récemment, SanDisk, Micron et Tutti Quanti, des actions qui offrent des graphiques qui n'ont rien à envier à l'argent, ça n'est pas surprenant. Il n'y a pas de grandes nouvelles sur le secteur ce matin, mais après l'affaire Microsoft Meta, où l'on a bien compris que l'investisseur moyen devenait soudainement plus sensible au cash tout de suite qu'aux promesses de fortune dans 3 ans, les intervenants sont de plus en plus frileux et ce matin, on exprime le doute. Et puis, on n'oubliera pas non plus que Jensen Huang, le patron vénéré de Nvidia, a laissé entendre que le deal de 100 milliards avec OpenAI, annoncé il y a quelques mois, était soudainement remis en question. Selon les déclarations obtenues en privé, le montant serait en train de fondre tout doucement, comme un glaçon sous un projecteur. Jensen Huang confirme qu'il y aura bien un investissement, mais pas du tout à la hauteur du chiffre magique annoncé en septembre. Traduction, beaucoup d'enthousiasme en communiqué de presse, beaucoup plus de prudence quand il faut commencer à signer des chèques. En interne, Nvidia doute, concurrence future d'OpenAI, dépendance client-fournisseur et surtout valorisation qui part en orbite jusqu'à 830 milliards de valo, rien que ça. Résultat, le marché commence à se demander si la bulle IA n'est pas en train de découvrir la différence entre storytelling et cash flow. Et quand Nvidia temporise, c'est tout le trade IA qui se met à trembler. D'où la couleur très très rouge des futurs à l'aube et le plongeon olympique des indices asiatiques. Mis à part le Kospi, le Hang Seng se prend 2,5% dans les dents et la Chine 1,5%. Il faut dire qu'en Chine, le PMI Manufacturing s'est affiché sous les 50, indiquant une nouvelle contraction du secteur. Résultat, tout va mal et le doute est partout. Le Japon limite la casse, mais à l'approche des élections qui arrivent, on n'a pas fini de rire. Il semblerait d'ailleurs que la première ministre marche sur des œufs et qu'on se dirige pas vers une victoire facile. Pour faire simple, ce matin, on a comme un doute, et dans le doute, il semblerait que la solution soit de prendre la tangente. Et si en plus Jensen Huang lui-même commence à avoir des doutes, on n'est pas sorti de l'auberge qui est au fond du trou, au fond des bois. Et en plus de tout ça, la semaine qui nous attend promet d'être spectaculaire. Au-delà de la digestion de Warsh, nous allons avoir une avalanche de publications et on commence ce soir avec Disney avant l'ouverture et Palantir après la clôture. Disney ne devrait pas changer la face du monde, mais Palantir qui, je le rappelle, se traite à des valorisations qui donnent l'impression que la bulle internet de l'an 2000 était drivée par des value stocks, ne pourra pas se permettre de décevoir. Et même si le CEO fait des pirouettes et des saltos arrière sur scène pendant la conférence de presse, il va falloir délivrer des chiffres et des promesses. Les promesses, il faudra savoir les déclamer en envoyant des fleurs dans le public. Bref, ça pourrait être intéressant. Et puis plus tard, dans la semaine, il y aura du monde au balcon puisqu'Amazon et Google seront de sortie, sans oublier Novartis et UBS sous nos contrées. Au-delà des trimestriels, c'est également la semaine de l'emploi. JOLTS, ADP et Non-Farm Payrolls pour boucler la semaine. Mais avant toute chose, il va falloir survivre à ce lundi qui a l'air d'être extrêmement tendu quand on voit les couleurs du marché. Et le pire, c'est qu'on dirait que ça tire dans tous les sens et qu'on ne fait pas de prisonniers. La tech, l'IA, le pétrole, les cryptos, les métaux, tout le monde se fait tirer dessus à balles réelles. On se demande où est-ce qu'on va aller se planquer. Et puis, alors quand on regarde les nouvelles du jour, il n'y a pas que des trucs sympas. Il y a par exemple Oracle qui veut encore emprunter 50 milliards. La boîte est déjà surendettée et les gars commencent à flipper sur la rentabilité de l'IA. J'ai peur que Larry Ellison finisse par devoir vendre son île. Et il y a aussi stratégie ou micro-stratégie, comme disent les vieux. Vous savez la boîte de Tom Saylor, celle qui base son business sur acheter du bitcoin, emprunter de l'argent et racheter du bitcoin, puis attendre que le bitcoin monte afin d'emprunter pour acheter encore plus de bitcoin. Stratégie qui cartonne quand le bitcoin monte, sauf que là, sous les 76 000, la stratégie de stratégie est officiellement en perte. Mais restons calmes, selon les experts, il n'y a pas de risque de vente forcée et donc tout va bien, pas de raison de paniquer, reste à voir jusqu'à quand tout le monde adhérera à cette vision. Bref, ce matin, on a une bonne ambiance de merde, sans que pour autant Trump ait publié la moindre connerie sur les réseaux, je ne sais pas si c'est rassurant ou s'il faut s'en inquiéter, mais en tous les cas, aujourd'hui, le doute nous assaille et visiblement le doute est présent dans toutes les classes d'actifs, il n'y a plus nulle part où aller se planquer puisque même l'or et l'argent sont has-been, tout comme les cryptos. Et si l'on se base justement sur les cryptos pour connaître notre niveau d'appétit au risque, il y a de quoi se coucher sur le sol en position fœtale avec la tête entre nos mains, en attendant que ça passe. Malgré tout, je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous recommande de vous échauffer un peu avant de mettre les mains dans le cambouis des marchés, parce qu'ils ne sont jamais aussi dangereux quand ils baissent pour plein de raisons différentes et qu'on n'arrive pas à coller la faute sur personne ou sur une personne, mis à part la trouille qui, elle, ne se commande pas. Et belle journée à tous et à demain.